Salut, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Ce soir, donc, on est mardi, c'est l'émission de la CNT, et comme c'est le deuxième mardi du mois, c'est l'émission de la CNT Éducation. Donc, avec moi aujourd'hui, il y a Renaud.
Oui, bonjour.
Donc, Renaud, qui est instite en école élémentaire à Nanterre.
C'est ça, oui.
Et membre du collectif anti-hiérarchie, le CAH, qui est un collectif formé il y a 5 ans, reformé il y a 5 ans. Pour défendre les collègues contre leur hiérarchie.
Bon, on pourra en dire un petit mot, mais ouais,
on en détail, je pense, avec le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Il y a Angélique.
Bonjour.
Angélique, donc, qui est prof de philosophie dans un établissement de soins-études. C'est le centre médico-pédagogique pour les adolescents à Neufmoutiers-en-Brie.
C'est ça. Hein,
dans le 77. Et Didier, qui est instituteur en maternelle dans le 18e et aussi membre du CAH.
Bonjour.
Et à la technique, comme d'habitude, c'est Greg.
Salut.
Qui est à la CNT Éducation 93 et pour la présentation, Pascal, de la CNT Éducation 75. Aujourd'hui, le thème qui va nous intéresser, c'est le thème des compétences, donc qui est, allez, osons le mot, à la mode. Aujourd'hui, on en entend parler en long, en large et en travers. Et justement, Angélique a écrit un livre passionnant que je vous recommande qui s'appelle « À l'école des compétences, de l'éducation à la fabrique de l'élève performant » aux éditions La Découverte. Et on va parler un peu de ce sujet. Avant de commencer, un tout petit point d'actualité, vu que tous les mois, j'essaie de vous donner des nouvelles des luttes de nos sections syndicales au niveau de la CNT Union Régionale Parisienne. On n'a toujours pas d'avancée notable sur notre section People and Baby, les camarades des crèches People and Baby qui se sont fait licencier ou déplacer. Malgré une occupation un petit peu dure du siège la semaine dernière, qui a eu une petite influence, du moins, enfin, on a pu avoir des rendez-vous avec le patron, mais pas d'avancée notable, donc on vous tiendra au courant dans les émissions à venir. Les luttes aussi de nos camarades sans papier, en particulier dans les sections du syndicat du nettoyage, les dossiers se déposent petit à petit. Là, pour l'instant, il y a une poignée de régularisations, mais par rapport aux 120 dossiers qu'on a déposés, rien de notable au niveau global. Donc, pareil, on vous tient au courant au fur et à mesure. C'est toujours très long. Et autant on est assez compétent, osons le mot, vu que c'est le sujet aujourd'hui.
On a le droit de s'en servir.
Voilà, on a le droit de s'en servir pour aller emmerder un patron, pour aller emmerder la préfecture. On a un peu plus de mal, donc c'est un petit peu long. Et on vous donnera des nouvelles probablement à la rentrée, vu que là c'est pour l'éducation la dernière émission de l'année scolaire. Et on avait eu l'idée de parler de compétences. Donc les compétences, c'est un mot qu'on va essayer de définir le plus proprement possible. C'est un mot qui regroupe tellement de choses que on va essayer de faire ça calmement. Et on va essayer surtout de bien parler de tout ce que sous-tend ce mot compétence, pourquoi il a été introduit comme ça dans les programmes scolaires, et pas seulement en France, mais c'est vraiment quelque chose d'international, le rapport que tout ça peut avoir avec la société capitaliste aujourd'hui, tous les objectifs qu'il y a derrière, les liens avec l'évaluation. Donc pour commencer, on pourrait déjà essayer d'évoquer le sens du mot compétence. Et Angélique, sur le sens du mot, on a pas mal de sens déjà.
Oui, alors en fait, il se trouve que quand je me suis intéressée aux compétences, donc moi j'enseigne la philosophie, a priori j'en avais jamais entendu parler, c'est parce que voilà, j'ai fait un stage à l'enseignement spécialisé, parce que j'enseigne auprès d'adolescents malades, dits handicapés. Et voilà, tout d'un coup, on a commencé à m'expliquer qu'il fallait que j'enseigne des compétences à mes élèves, c'est-à-dire plus exactement que je définisse à quelles compétences la philosophie permettait à mes élèves d'acquérir. Voilà. Et donc, au départ, ça m'a choquée et j'ai cherché à comprendre ce qu'il y avait derrière ce mot. Parce qu'il me semblait que voilà, la philosophie, elle a une histoire, elle a une culture, on essaye de la faire vivre dans des classes, mais ça ne sert pas à autre chose qu'à enseigner la philo. Et cette histoire de compétences me paraissait très étrange. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu. Donc effectivement, j'ai découvert que que la France avait adopté un socle de connaissances et de compétences en 2005 qui définit 7 compétences à faire acquérir à la fin de la scolarité obligatoire à tous les élèves du système éducatif. J'ai découvert que ce socle était pris dans dans les recommandations du Parlement et du Conseil européen. Qui définissait des compétences à peu près semblables, que ceci était pris dans une définition et sélection des compétences clés par l'OCDE qui a eu lieu en 1997 et que voilà, tout ça convergeait. Et j'ai essayé de comprendre quel sens pouvait avoir le terme de compétences. Et j'ai découvert qu'effectivement, les sciences de l'éducation travaillaient depuis assez longtemps sur cette approche. En fait, on appelle ça l'approche par compétences, l'APC. Pour les intimes et que dans les sciences de l'éducation on se met d'accord sur la définition suivante: les compétences c'est la capacité que donne l'apprentissage à mobiliser des ressources, ça veut dire des dimensions cognitives, des savoirs, des habiletés, etc. De façon efficace dans une situation de la vie. Définition qui, mis à part qu'on voit bien qu'elle essaye de définir en quoi est-ce que ce qu'on apprend aux élèves peut leur servir efficacement, peut créer une efficacité. Mis à part ça, ça pose un certain nombre de problèmes qu'on, je pense qu'on aura l'occasion d'évoquer, effectivement, parce que c'est quoi ces ressources Est-ce que c'est des savoirs? C'est quoi mobiliser? Qu'est-ce qui permet à un élève de mobiliser ce qu'il a appris de façon efficace? Par quoi ça passe? Comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Et puis, c'est quoi une situation de vie? Ça convergeait avec la tentative qu'avait eue l'OCDE de sélectionner les compétences clés qui aujourd'hui permettaient aux élèves de réussir dans la vie moderne. Donc on voit bien que là, il y a effectivement une articulation avec une définition normative, en fait, de la réussite dans la vie, quoi. C'est quoi une situation de vie? C'est comment on définit la réussite dans la vie moderne aujourd'hui.
Donc on voit déjà caché derrière ça la réussite professionnelle, mais aussi l'adaptabilité au système. La compétence, c'est la compétence de pouvoir s'adapter à une situation d'emploi en particulier. Donc ça réduit le savoir finalement à la capacité de pouvoir s'adapter à son métier, éventuellement à ses métiers, vu que les licenciements sont chose courante et qu'il va falloir pouvoir se changer de métier assez facilement. Historiquement quand même, donc il y a un lien entre le mot compétence et les mouvements pédagogiques. Il n'est pas arrivé dans l'éducation comme ça. Via les gouvernements qui ont imposé le mot compétence comme ça du jour au lendemain pour rigoler. En fait, il y a quand même ce mot qui est utilisé depuis assez longtemps, Didier.
En fait, oui, c'est le problème, c'est que si on s'en tient à la définition, on peut trouver toutes sortes de définitions et faire dire des tas de choses à ce constat qui est fait par les experts d'ailleurs aujourd'hui, c'est que derrière le mot compétence, on met tout et n'importe quoi. Certains parlent de fourre-tout, de vide théorique. En fait, le problème, c'est que compétence, c'est pas un concept, c'est pas une notion. C'est, comme disait je sais plus qui, c'est une catégorie de la pratique, en fait. C'est plus l'idée de, on va mettre en route tel type de méthodologie, de procédure. Et on se moque pas mal du sens que ça peut avoir. Ce qui est pris en compte, c'est l'efficacité de quelque chose. C'est une opération, comme l'évaluation. C'est un calcul, c'est un logiciel, c'est un... Et c'est pour ça qu'à la limite, s'interroger sur la définition, c'est un aspect intéressant qui peut montrer l'éventail de toutes les définitions possibles qui renvoient à des valeurs éthiques, des conceptions politiques de ce que c'est que le savoir, l'efficacité, que sais-je, tout un tas de termes. Et effectivement, parmi toutes ces définitions de compétences, il y avait ce questionnement à l'intérieur de l'école: comment faire pour dépasser des savoirs disciplinaires totalement inefficaces, inutiles, ennuyeux, que l'on tente d'inculquer aux enfants par des processus de transmission, renverser la vapeur et, comme disait la pédagogie institutionnelle ou les mouvements Freinet, revenir à comment faire construire par les enfants des savoirs qu'ils s'appropriaient, qu'ils peuvent s'approprier dans des situations spécifiques. Alors, ça c'était une démarche intéressante.
Excuse-moi. Pardon. Mais il y avait aussi un autre problème qui était de, pour eux, à ce moment-là, qui était de comment dépasser la note, comment contrer la note, puisque la note, ces mouvements pédagogiques s'accordaient pour penser que c'était quelque chose de, que la notation elle-même ne correspondait à rien et était justement une opération de une pure opération de pouvoir qui consiste à chiffrer, à donner un résultat chiffré pour noter, pour juger en bien, en mal un travail. Et ce qui a motivé au départ cette approche par compétence dans les mouvements pédagogiques était aussi une façon d'en terminer avec la notation.
C'était une évaluation de type positif, quoi. On acquiert une compétence, on n'est pas sanctionné par une note ou...
Oui, et ça va jusqu'à ce que Didier évoquait, que l'enfant lui-même peut mesurer cette compétence. C'est lui-même qui va dire, pour réussir tel travail, j'aurai besoin d'acquérir telle compétence. Et le travail réussi validera l'acquisition de la compétence. C'était ça l'idée au départ.
D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'évaluation formative. Oui. C'est-à-dire le fait qu'on critique la note parce qu'elle ne permet d'avoir qu'une évaluation bilan, qui fait le bilan de ce qui a été acquis, alors qu'elle ne permet pas à l'élève de profiter de l'évaluation pour pouvoir se former. L'évaluation par compétence permettait, en tout cas dans une perspective progressiste, elle permettait de faire entrer l'évaluation dans le processus d'apprentissage, de lui donner une dimension vraiment positive dans le processus d'apprentissage et non seulement effectivement une dimension discriminante, une dimension purement comparative, purement compétitive, etc.
Alors, mais justement, en parlant de compétition, c'est assez troublant d'ailleurs que de l'étymologie commune entre compétence et compétition. Je sais pas si derrière l'évaluation par compétence, même dans les mouvements pédagogiques, est-ce qu'il n'y a pas non aussi, comme dans toute évaluation, une idée de compétition? Il y a ceux qui valident, ceux qui valident pas, comme il y avait ceux qui avaient les bonnes notes et ceux qui n'avaient pas les bonnes notes.
Pas dans les mouvements pédagogiques, ça peut devenir ça, mais dans les mouvements pédagogiques, non, parce que justement, après tout, dans l'idée, les enfants n'étaient pas censés forcément avoir tous acquérir les mêmes compétences en même temps. C'était pas le problème. Alors après, tant qu'on est dans le cadre de l'éducation nationale, il y a un programme, il y a des choses qui font qu'ils devront progresser tout de même de façon assez uniforme. Mais non, justement, les compétences devaient permettre de sortir de la compétition et des comparaisons de... On y reviendra plus tard, mais l'exemple classique, c'est quand c'est des enfants dans une classe où il y a des notes, ils vont tout de suite comparer leurs notes, j'ai les meilleures notes que toi, etc. Et pour contrer ça, il a été mis en place de nombreuses façons d'évaluer par compétence, avec ce qui donne lieu parfois à des livrets d'évaluation qui font des dizaines de pages où sont listées vraiment beaucoup, beaucoup de compétences. Bon, ce qui est un problème en termes de lisibilité déjà.
Savoir multiplier par 10.
Savoir multiplier, après savoir multiplier par 10, après... Enfin, non, tu peux détailler ça, vraiment, tu peux couper la...
À l'infini.
Ah oui, chaque savoir...
Ce qui pose un problème de focal par rapport aux compétences, c'est à quel niveau se situe la compétence? Est-ce que c'est une compétence globale ou est-ce que c'est une micro-compétence, quoi?
Complètement, mais ça pose pas de problème aux enfants, puisque quand ils ont ce livret-là, eh ben, ils comptent le nombre de points verts ou de A ou de trucs coloriés, et puis voilà, c'est tout. Et... La compétition, elle ne se situe pas là-dedans, ni dans la note, ni dans... Elle peut se situer dans l'évaluation elle-même. Mais dans ce cas-là, c'est d'évaluation qu'il faut parler. C'est plus non plus de façon d'évaluer.
Oui, alors par contre, effectivement, les compétences ont été utilisées dans une perspective de compétition, notamment dans l'entreprise, quand le nouveau management s'est structuré autour de la notion de compétence et que le credo s'est installé, disant que la compétitivité de l'entreprise était fonction du capital cognitif dont elle disposait, c'est-à-dire de la somme de compétences de ses employés. Où là, effectivement, il y a un rapport entre compétences et compétitivité qui est créé de manière directe.
Oui, et donc là, on arrive déjà, on voit bien le lien qui peut être fait. Enfin, pourquoi les États, pourquoi les gouvernements ont absolument voulu introduire les livrets de compétences dès l'école maternelle, hein, parce qu'aujourd'hui... on en est à avoir des livrets de compétences en école maternelle, même s'il y a quelques résistances qui se font et pas mal d'écoles qui ne les remplissent pas. On force les élèves à être compétitifs pour d'éventuels employeurs plus tard déjà.
Mais si on...
Bon, c'est oui, mais, c'était pas... C'est vrai ce que tu dis, mais... Ça laisserait entendre que c'était mieux avant quand il n'y avait pas cette approche par compétence. Et ça, c'est pas
parlons-en
vrai.
De ce qu'il y avait avant aussi. Ouais.
Non, je pense qu'il faut cadrer plus large, c'est-à-dire voir pourquoi la logique par compétence est apparue dans l'entreprise, à quel besoin ça répondait, pourquoi il y avait des blocages dans des formes de régulation des salariés. Pourquoi il a fallu à ce moment-là changer de paradigme et pourquoi le terme compétence a été choisi pour justement introduire des processus qui voulaient casser des solidarités, des collectifs, des capacités collectives qui mettaient en jeu la rentabilité capitaliste. Et il s'était annoncé tel quel par les grandes associations ou syndicats patronaux. Il a fallu commencer à réfléchir dans l'organisation du travail, ce que dit le sociologue, il fallait casser les chaînes d'ouvrières. Il fallait trouver des nouveaux processus de mobilisation des salariés qui allaient transférer sur des individus des responsabilités qui étaient réparties autrement avant. Il a fallu, je pense que c'est plus quand on réfléchit au mode d'individualisation de toutes les formes de subordination et de contrôle, qu'on comprend pourquoi c'est ce terme-là qui a été choisi.
Oui, tout à fait. Je voulais ajouter, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, et je pense que cette logique de participation qui a été mise en place par les entreprises dans les années 70, au moment où il y avait effectivement à la fois un problème de productivité et des luttes sociales qu'il fallait juguler, ça s'est couplé avec aussi une volonté qu'on avait alors, parce qu'on s'était rendu compte que entre ce qu'on appelait le travail prescrit et le travail réel, il y avait un écart, une volonté de réduire l'écart entre le travail réel et le travail prescrit. Et à ce moment-là, la notion de compétence, dans la mesure où elle nomme une performance davantage que une capacité ou davantage qu'une production, c'est ni la capacité ni la production, c'est la performance. Dans la mesure où elle nomme une performance, elle permettait de cerner au plus juste en fait ce dont était capable l'ouvrier ou l'employé dans le cadre de la dans une logique de compétitivité de l'entreprise. Et donc c'est là que les sociologues ont commencé effectivement à travailler sur une catégorisation des savoir-faire, mais aussi des savoir-être qui participaient justement, qui étaient induits dans cette performance des ouvriers, des employés dans l'entreprise. Et donc on a commencé à faire des profils de compétences, à sortir des logiques de qualification pour entrer dans les logiques de profils de compétences sur lesquels les entreprises pouvaient se caler pour gérer leur capital humain, quoi.
Et donc cette individualisation qui, en particulier dans l'éducation, n'a pas du tout remédié à l'individualisation qui précédait. Donc toute la notion de discipline et de notes, c'est vrai qu'on peut aujourd'hui s'opposer aux compétences sans forcément défendre le système précédent. C'est, je pense, ce que tu voulais dire, Renaud.
C'est clair que c'est notre position. On critique les compétences pour toutes les raisons qu'on vient de dire, mais il est très clair que je préfère personnellement de loin un livret de compétences à un bulletin de notes comme il en existe encore dans le secondaire. Oui.
Oui, c'est que la compétence s'est opposée à la discipline au départ, et on peut s'opposer aux compétences tout en s'opposant aussi à la discipline. Donc peut-être que justement il va falloir parler un peu du savoir.
Moi, j'aimerais bien que tu développes, Renaud, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu préfères, qu'est-ce qui est rendu possible justement par le livret de compétences, qu'est-ce qui va davantage dans le sens...
La simple disparition de la note, ce qui d'ailleurs pose des problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le secondaire, l'éducation nationale tente d'imposer des livrets de compétences pour remplacer les bulletins de notes traditionnels. Et cette note qui, parce qu'elle est parfaite, parce que c'est un nombre, c'est sur une note sur 20, et que ça a quelque chose d'absolu, un élève, souvent le prof pourrait lui mettre n'importe quelle note, en fait, l'élève, ça va le définir, il va la subir, cette note. Les compétences, c'est actuellement, et au niveau de l'école, c'est tellement n'importe quoi. C'est quelque chose qui est tellement pas clair pour ceux qui les pratiquent que je préfère encore ça.
D'accord.
Oui, c'est-à-dire qu'une fois que le livret de compétences aura bien entériné le fait qu'il y a un objectif derrière, un objectif d'adaptabilité au système, peut-être que ce sera pas forcément plus joli qu'une note.
L'adaptabilité au système, c'est pas le livret de compétences qui va la faire. C'est le monde du travail, c'est le chômage, c'est la situation sociale des gens.
Seront bien évalués dans un livret de compétences ceux qui sont adaptables justement à ce système.
Comme pour les notes. C'est le rôle de l'éducation nationale.
Mais moi, je vois pas exactement la différence en fait entre les compétences. Il faudra qu'on parle aussi d'ailleurs en détail des compétences qui sont évaluées dans les livrets pour bien voir leur absurdité aussi. Peut-être. On peut peut-être parler de ça.
Oui, mais l'absurdité, moi je pense que l'absurdité est de vouloir, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution à ça non plus, l'absurdité est de vouloir évaluer à un moment donné les savoirs d'un enfant, les progrès d'un enfant, des choses qui vouloir figer à un moment, dire à des parents, voilà, votre enfant, aujourd'hui, il vaut ça. Et ça, elle est là, l'absurdité. On peut pas répondre à ça.
Le problème, c'est l'évaluation, soit sous forme de notation qu'on a toujours connue. Oui, on ne va pas refaire un débat sur l'évaluation.
Ah, si, on peut.
Et parce que la compétence, c'est ce qui est évalué, point, c'est tout. Et là, ça n'a pas de sens en dehors de ça. Que ce soit par l'enseignant directement, par le système des évaluations nationales de masse.
Alors, un bémol quand même, justement, par rapport à ce qu'on disait, il y a quand même un effet pervers qui commence à se faire sentir sur les compétences. C'est que c'est quelque chose qui est très décriant au Royaume-Uni en ce moment. C'est que c'est vrai, justement, par les évaluations nationales qui sont imposées, puisque les compétences vont définir des types d'exercices directement. Alors que c'est vrai que quand tu avais une note de conjugaison ou une note d'orthographe, tu es obligé de faire de la conjugaison de l'orthographe pour pouvoir remplir la case, mais ça ne te dit pas ce que tu fais. Là, une compétence va définir un type d'exercice, va définir un type de travail.
C'est normalisateur, quoi.
C'est très normalisateur. Ça normalise pas seulement, finalement, le type d'exercice qui va être évalué, mais ça va normaliser l'enseignement. Ça va normaliser...
Les démarches d'enseignement.
Complètement.
Ouais,
et ça, oui, ça, c'est un vrai danger.
C'est-à-dire que, moi, j'ai étudié un petit peu, justement, le passage des évaluations internationales des évaluations centrées sur l'assimilation des programmes par les élèves du système en question vers l'évaluation des compétences. Donc, c'est effectivement les travaux que je citais tout à l'heure de l'OCDE. qui s'appelle DESECO, donc c'est l'action des compétences clés à réussir dans la vie, qui ont mené au PISA, au programme international de suivi des acquis des élèves, qui est basé sur justement les fameuses compétences à réussir dans la vie. Et je me suis aperçue que à la fois ce qui va changer dans le passage, c'est ce qu'on évalue. C'est-à-dire que dans un premier temps, on évalue des productions. Bien sûr, c'est une évaluation. C'est une évaluation qui discrimine, qui classe, mais c'est une évaluation qui porte sur des productions. Qui est en rapport avec des programmes. On passe à une évaluation qui porte cette fois sur des compétences, c'est-à-dire finalement sur l'être de la personne. C'est plus ce qu'elle produit, c'est ce qu'elle est. C'est-à-dire ce qu'on évalue à partir de là, c'est sa capacité à réussir dans la vie. Et en fait, ce déplacement est vraiment très profond. C'est-à-dire que évaluer quelqu'un sur ce qu'il fait, ce n'est pas pareil que l'évaluer sur ce qu'il est. Même si, finalement, on ne l'évalue que sur ce qu'il fait. Mais on prétend l'évaluer sur ce qu'il est, c'est-à-dire sur sa capacité à réussir ou pas. Et quand on lit dans les programmes de l'OCDE qu'il y a des compétences à réussir dans la vie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous ne réussissez pas dans la vie, finalement, c'est que vous n'avez pas les bonnes compétences. Donc c'est de votre faute. On retrouve l'individualisation dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que la compétence, elle est en première personne, quoi. Et c'est une façon de renvoyer finalement l'échec de quelqu'un dans sa vie au fait que ce soit de sa faute, quoi, à lui-même. Voilà, à son être, à ce dont il est capable, aux capacités qu'il a eues de réussir. Alors ça, c'est une première chose quand même essentielle. C'est-à-dire l'évaluation ici, elle va changer de nature en fait, et elle va se radicaliser. Pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus normalisateur quand on évalue les savoir-être que quand on évalue uniquement des productions. Même si quand on évalue des productions, c'est catastrophique, mais c'est quand même beaucoup plus radical. Et puis moi, je sais pas. Après, je veux pas parler trop longuement, mais il me semble qu'il y a une deuxième dimension dans les compétences qui pose réellement problème.
Oui.
Non, je sais pas si vous voulez.
Allons-y.
Je parle pas trop longtemps.
Petite musique après.
La deuxième, c'est le fait que donc c'est toujours sur la genèse des compétences. Je me suis intéressée à qu'est-ce qui avait fait que les compétences avaient pris cette place-là dans les systèmes éducatifs. Et donc je me suis aperçue qu'en fait la première occurrence, c'est dans l'économie de l'éducation, donc qui naît après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60 aux États-Unis. Et notamment de façon concomitante avec la découverte, entre guillemets, de ce qu'on appelle aujourd'hui le capital cognitif ou encore capital intégré de la personne, dont on doit la découverte à Schultz, qui a d'ailleurs eu le prix Nobel pour ça, et qui dit jusqu'ici, on n'avait pas pensé qu'en fait, quand une personne se forme, quand une personne s'éduque, eh bien, elle investit sur son capital cognitif et elle le valorise. Et finalement, ceci est à la fois bon pour la personne, c'est-à-dire elle peut en avoir un retour sur investissement, notamment en termes d'employabilité, mais ceci peut être un bien aussi pour les États, ça peut être source de croissance pour les États, et ça peut être aussi source de compétitivité pour les entreprises. Donc les compétences, en fait, ça va être cette idée que l'individu, quand il apprend, il mise sur ses compétences, il mise sur son capital, il capitalise, il fait du profit, quoi. Donc c'est un individu qui fait du profit en allant à l'école. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose dans le concept même de ce que c'est qu'éduquer et qu'être éduqué, de l'éducation, qui est extrêmement nouveau, que nous, quand on pense en termes républicains, c'est-à-dire l'éducation, c'est l'esprit critique et c'est devenir citoyen, quoi, c'est-à-dire devenir acteur d'une république, d'une chose commune. On pense pas du tout les choses de cette façon-là. Ici, l'éducation devient une petite entreprise, une entreprise privée. Je m'éduque en investissant sur mon capital cognitif. Je crois que les compétences, elles sont malheureusement prises là-dedans parce que c'est leur naissance, quoi. C'est leur origine.
Salut, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est l'émission de la CNT Éducation, Radio Libertaria, comme tous les deuxièmes mardis du mois. Donc on est toujours avec Renaud, Angélique, Didier et Greg à la technique pour parler des compétences aujourd'hui dans l'éducation. Donc on a encore pas mal de choses à voir sur les compétences. Peut-être on peut présenter rapidement le collectif anti-hiérarchie, Renaud. Donc Didier et toi, vous êtes du collectif anti-hiérarchie depuis sa reformation.
Oui, voilà. Alors, puisque tu parles de reformation, et tout en restant rapide, on va faire un historique, on va remonter très loin dans le XXe siècle. Non, c'est... le collectif anti-hiérarchie est né d'un mouvement collectif qui a imposé le refus d'inspection. Quand on est un professeur, enseignant, il y a l'inspecteur qui vient, c'est ça l'inspection. Et c'est depuis les années, au cours du XXe siècle jusqu'aux années 80, le refus d'inspection était quelque chose qui était sanctionné. Il était en général motivé soit par des raisons purement disciplinaires ou des enseignants souvent agrégés estimaient que leur inspecteur n'avait aucune raison de juger de leur travail parce que
non, il n'y avait pas la cheville.
Exactement, c'était le vrai spécialiste.
Il n'était pas compétent.
Voilà. Et puis il y a eu quand même dans les années 70 un mouvement qui s'est développé sur des bases beaucoup plus sociales, qui était et plus pédagogique, qui disait que l'enseignement dans une école c'est d'abord un travail collectif, que l'inspecteur lui n'est qu'un supérieur hiérarchique. Et qu'en tant que tel, il peut pas venir à la fois pour juger, pour mettre une note à l'enseignant, puisque c'est quand même ça la finalité de l'inspection, et pour donner des conseils ou pour évaluer la pratique pédagogique. Bref, au début des années 80, le refus d'inspection est reconnu par le ministère. Et donc, à partir de là, ce mouvement collectif faiblit, se perd n'a plus de raison d'être vraiment. Et dans les années 90, quand l'enthousiasme pédagogique qui accompagnait l'arrivée de la gauche au pouvoir est un petit peu retombé, le besoin de se regrouper de nouveau s'est fait ressentir. Le besoin de résister à la pression hiérarchique et de remettre en avant ce refus d'inspection s'est fait ressentir, et comme c'était pas...
Une tentative de répression aussi
Pas encore, c'est arrivé après...
C'est pas dans les années 90 l'histoire dans le Calvados, là.
Si tu le dis. Et c'est possible. Oui. Enfin bon, et donc, dans les années 90, le collectif anti-hiérarchie s'est recréé, notamment à l'initiative des syndicats sud et CNT, puis de non-syndiqués. Et voilà. Et donc, il s'agit surtout d'informer les collègues que refuser l'inspection est quelque chose qui est un droit. Ce qu'en général, les enseignants ne croient pas. Hein. Et puis, vu l'actualité, vu l'ambiance de l'éducation nationale qui est d'un retour très réactionnaire à une école mythique d'autrefois, vu les nouveaux programmes, l'arrivée des compétences, les évaluations, on s'est mis à s'intéresser à d'autres choses qu'au refus d'inspection pure et à réfléchir sur l'évaluation en général.
Donc un gros travail contre la hiérarchie de l'éducation nationale qui est grandissante, mais aussi contre la hiérarchie prof-élève.
Oui, tout à fait. Ce qui nous oblige à réfléchir sur nos pratiques pédagogiques et à remettre en cause l'organisation de l'école actuelle.
D'accord, donc ça... C'est pour ça que la réflexion sur les compétences prend tout son sens aussi au sein du collectif. Et que justement, on va pouvoir peut-être un peu parler de... Donc, en termes d'évaluation, les compétences, elles se traduisent par des livrets. Ces livrets, ils contiennent des items qui sont des compétences ou des micro-compétences. Alors, peut-être qu'il serait quand même pas mal de montrer des exemples, de donner des exemples d'items, des exemples de compétences évaluées, et puis quel peut être l'intérêt d'une telle compétence, etc. Quelqu'un a des exemples ?
Faut déjà dire, je pense que du point de vue des parents qui reçoivent ces livrets, les parents pouvaient avoir pour habitude de recevoir un livret, un bulletin de notes en fait, où d'un coup d'œil, ils vont voir que voilà, leur enfant a telle et telle note dans telle et telle matière, et ils vont se faire une idée, et puis ça va pas. Aujourd'hui, dans la plupart des écoles, fonctionne avec un livret de compétences, et le livret de compétences est quelque chose de beaucoup plus volumineux.
C'est long.
C'est long et c'est parfaitement habitable pour un parent normal. Il va y avoir de nombreuses compétences qui ont appelées transversales, qui vont être déclinées. Des compétences transversales, c'est qu'on les rattache pas vraiment à une matière, à une discipline en particulier, ou alors qu'elles servent dans tout.
Comprendre un énoncé.
Comment ?
Comprendre un énoncé.
Réagir à une consigne, par exemple.
Oui, ou
obéir à un ordre.
Réagir.
Oui, ou s'investir dans la tâche, ou mettre en œuvre les capacités requises dans une situation problème. Bon, alors c'est... Quand on est de la partie et qu'on est censé remplir ce genre de livret, on voit ce qui est derrière, on peut se faire une idée de « Ah oui, voilà, c'est ça que je suis censé évaluer. » Mais c'est clair que quand on est parent, ça veut rien dire. Et le parent va faire comme l'enfant, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le parent, il va... Alors après, la compétence, ça va se décliner en acquis, donc ça veut dire que l'enfant sait le faire. En cours d'acquisition, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. L'enfant en a entendu parler, mais c'est pas encore le faire. Ou alors non acquis, là au moins c'est clair, non acquis, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Mais bon, et donc le parent va faire... il peut rien faire d'autre. Le parent va faire comme l'enfant, il va compter le nombre de A, ou de points verts, ou de acquis, le nombre de points orange, ou de points rouges, ou de B, ou de C, etc. Et voilà, et c'est ça, il va essayer de se faire une idée globale de ce que vaut son enfant, parce qu'on en revient toujours à ça,
une évaluation, quoi.
C'est une évaluation, et donc on essaye de, avec ce qu'Angélique disait, qui est que c'est une évaluation qui va définir l'individu. Et ça, c'était présent dans la notation, mais là, on va définir des qualités, en fait. Une compétence, ça reste une qualité. Et...
Oui, c'est défini en termes de être capable de, en fait. On est capable ou on n'est pas capable.
Oui, c'est tout à fait ça.
C'est ça. À chaque fois, c'est. Et quand ça rentre dans la définition justement de ce que les entreprises appellent les savoir-être, mais par exemple le socle commun de connaissances et de compétences s'appelle les attitudes, là, ça rentre vraiment dans. Enfin, je sais pas, moi, ça me choque cette idée de savoir-être parce qu'on est ou on n'est pas. Mais si on apprend à être, ça veut dire qu'on peut être tout et n'importe quoi. Et ça veut dire qu'il y a des attitudes, des comportements normalisés qu'il faut être. Et si vous ne l'êtes pas, à ce moment-là, vous en manquez. Et donc, vous n'êtes pas comme il faut être. Il faut apprendre à être comme il faut être, en fait. C'est ça que ça veut dire.
Il y a un ordre moral derrière.
Oui, il y a surtout un contrôle complet. Et c'est ça la force des compétences. C'est qu'on va partir d'enfants à l'école qui vont être évalués et définis par telle ou telle compétence de savoir poser une addition ou de savoir lever la main avant de parler. Cet enfant va grandir, cet enfant va entrer dans le monde du travail et il sera toujours défini par des compétences. Et les compétences seront s'adresser poliment au client ou servir en un temps record...
17 plats.
Exactement. Ce qui fait que la compétence, c'est celui qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui définit la compétence et qui va dire, voilà, tu dois correspondre à tel ou tel schéma. Et est-ce que tu sais faire, est-ce que tu as telle ou telle capacité, est-ce que tu sais faire telle ou telle chose. Et la compétence, c'est un instrument de pouvoir. C'est ton chef, ton supérieur... ou l'autorité qui met en place le pouvoir, qui va te dire tu es conforme ou tu es non conforme.
Mais c'est bien. Excuse-moi.
Je voulais juste une parenthèse. Et c'est pourquoi, quand on a convoqué des chercheurs, des experts, pour leur demander de définir ce que c'était une compétence, il n'y a jamais eu consensus, il n'y a jamais eu accord. Et pour la plupart, ils ont dit, mais c'est impossible, c'est vide de sens, ça n'en a aucun. Ça va forcément faire référence à une situation précise. Et au bout du compte, au résultat, ce qu'il en reste de ce vide, c'est que c'est quelque chose de purement formel. C'est-à-dire, ce qu'a dit Renaud, c'est la compétence, en fait, c'est qu'on a mis un nouveau terme sur un ancien qui était déjà là, qui était celui d'objectif. C'est-à-dire quelque chose qui est totalement extérieur à l'individu, on lui demande de remplir un objectif, d'arriver à un résultat. Et que ce soit le terme compétence ou autre chose, ça ne change rien à l'affaire.
Oui, alors effectivement, par rapport à ce que tu dis sur, sur les objectifs, c'est aussi un des éléments d'émergence des compétences dans, voilà, de genèse, on va dire, de la notion de compétence. C'est qu'en fait, c'est venu avec le comportementalisme et la psychologie cognitive qui a commencé à définir des modules en fait cognitifs qui seraient, qui définiraient notre capacité à notre capital cognitif justement. Et ces modules sont finalisés et sont séparés les uns des autres. Alors c'est comme ça qu'il y a eu la taxonomie de Bloom qui s'est introduite et qui a permis d'un point de vue pédagogique d'entrer dans la pédagogie par objectif, c'est-à-dire de déterminer quels étaient les objectifs cognitifs auxquels la pédagogie pouvait se soumettre. Et puis on a commencé à dire que la pédagogie par objectif avait, avait un aspect trop dénué de sens justement, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas très bien finalement comprendre, expliquer, d'accord, mais comprendre quoi, expliquer quoi, par rapport à quoi, dans quel contexte, ça ne faisait pas sens quoi. Et c'est comme ça que la notion de compétence, qui est censée être plus intégrée, du moment qu'elle est finalisée dans une situation complexe, du coup elle prend son sens en situation, la notion de compétence est venue remplacer la notion d'objectif. Et à ce moment-là, bon, elle apparaît comme en continuité avec la notion d'objectif. Et par ailleurs, là où elle s'articule aussi à l'idée d'objectif, c'est effectivement dans cette, ce management qui aujourd'hui pénètre dans, toute, dans tous les systèmes publics en fait, du service public, mais notamment dans le système éducatif, qui va être un pilotage par les objectifs. Donc on va piloter tous les niveaux du système éducatif par les objectifs, y compris effectivement le niveau pédagogique, dont on va demander qu'il définisse ses objectifs et ses indicateurs de performance pour savoir si les objectifs ont été atteints, de manière à pouvoir le piloter par les résultats. Et c'est là qu'effectivement les compétences apparaissent comme un instrument de pouvoir. J'ai envie de dire presque, c'est plus qu'un instrument de pouvoir individuel, le patron qui va déterminer quel savoir-être, de quel savoir-être il a besoin. C'est vraiment un instrument de biopolitique au sens où Foucault le définissait, c'est-à-dire c'est un instrument de gestion d'une population. C'est un instrument qui finalement applique ou permet d'appliquer une logique d'entreprise privée, une logique d'entreprise à un service public. Et on en est là, quoi. Et les compétences prennent place dans ce dispositif. Elles sont faites pour ça. Enfin, elles sont faites pour ça. Elles ont pu être développées et les pédagogies progressistes ont pu s'en emparer, donc être développées ailleurs que dans ce système. Mais disons que dans ce système, elles trouvent une place absolument adéquate, quoi.
Oui, puis pour en revenir aux exemples, c'est vrai que on avait fait des livrets d'évaluation en maths quand j'avais commencé, moi, il y a 10 ans. Il y avait des livrets d'évaluation en seconde. Et donc on mettait des, donc il y avait des exercices avec à chaque fois un codage suivant la réponse 1, 2, 3. Alors 1 c'est parfait, c'est juste. 9 c'était faux, n'importe quoi. 0 pas fait. Puis il y avait 2, 3, 4, 5, 6, 7 suivant le type d'erreur. Et suivant le type d'erreur, en fait, il y avait tout un, chaque codage rentrait dans un tableau et il sortait informatiquement un bilan individuel par élève de l'évaluation qui était automatique en fait, qui n'était pas du tout le fait de, c'était ça venait pas d'une réflexion, on réfléchissait pas sur pourquoi on a fait telle erreur, etc. Quelqu'un avait réfléchi en fait au type d'erreur possible qui correspondait à un codage particulier, et c'est ce que tu disais en fait, il y a quelque chose derrière en fait, il peut y avoir une compétence qui peut vouloir dire rien du tout, genre comprendre un énoncé, et en fait comprendre un énoncé, certaines erreurs sont prévues d'avance pour que certains élèves qui n'ont pas hyper bien compris l'énoncé fassent cette erreur. Et il y a un code 5 qui correspond pile à cette erreur, qui fait que l'ordinateur il repère qu'il y a eu le code 5 à cette question et qui dit que donc l'élève il comprend pas les énoncés, etc. Enfin, avec un côté informatisation de l'évaluation que je trouvais hyper malsain, et surtout, un fractionnement de l'erreur en erreur pas grave, erreur grave, erreur qui va dans telle compétence, erreur qui va dans telle autre, alors que franchement, sans aucun lien forcément très clair. Enfin, moi, je me rappelle d'un truc complètement ridicule, en fait, où si on faisait une erreur qui était prévue, c'est-à-dire un piège, en gros, si on tombait dans un certain piège, on se retrouvait dans l'évaluation finale. Si on était tombé dans le piège, il y avait 40 questions ou 100 questions, je sais plus. Si on faisait un piège sur une des questions, et ben il y avait quand même prévu dans la conclusion finale de l'ordinateur, parce que c'est l'ordinateur qui choisit la conclusion, il y avait une phrase exprès pour cette erreur-là, qui était pourtant un piège. Enfin, des trucs vraiment super malsains et glauques dans ce livret-là. Alors c'est probablement moins le cas en primaire, hein. Vu que là c'était un livret national. Ben si, ben il y a ça maintenant en primaire aussi.
Oui, il y a
des évaluations nationales,
donc fonctionne comme ça. Oui. Sauf que ils n'en sont même pas là, dans le sens où, comme la mode est un retour réactionnaire et à la nostalgie, ils se sont dit on peut faire la même chose, mais finalement les erreurs on s'en fout.
Ah oui.
Et donc il y a même juste plus, parce que c'est toujours le problème, c'est que dans ce que tu décrivais, il y a à la fois cette volonté de contrôle complet des connaissances de l'élève, de réussir à découper en petits morceaux son travail et d'identifier à l'avance des erreurs possibles et de traiter tout ça par informatique pour en sortir quelque chose. Mais il y a aussi cette volonté de, quand j'ai lu qualifié de progressiste, cette volonté de comprendre l'erreur ou de prévoir l'erreur. Bon, admettons. Mais là, on n'en est même plus là à l'école pour l'instant. C'est voilà, on va vous mettre des évaluations. C'est bon ou c'est pas bon. Elles sont pleines de pièges aussi. Hein.
Ouais.
Et alors après, de toute façon, ces évaluations, comme n'importe quelle évaluation, l'intérêt, c'est pas l'évaluation. L'intérêt, c'est pourquoi on fait l'évaluation et qu'est-ce qu'on veut lui faire dire.
Tout à fait.
Et moi, n'importe quel... Merci.
Non, mais c'est très important, ça.
Ouais, et oui. Ça, un élève... C'est pas difficile de dire cet élève-là est bon élève ou cet élève-là est mauvais élève en choisissant le même élève, hein, je parle.
Mm-hmm.
Il suffit de choisir une évaluation, de choisir des items, une fois que tu connais l'élève, des items adaptés, et puis il va réussir ou il va échouer. C'est pas un problème. Et c'est pareil pour l'école. L'objectif actuel du gouvernement, c'est de montrer que l'école échoue. Bon, eh ben on donne des évaluations infaisables aux élèves.
Ah,
et je
bien.
Suis prêt à parier... C'est pas de moi, mais je suis prêt à parier que les évaluations de l'année prochaine seront très faciles.
Ah oui, bah oui.
Puisque comme ça, le gouvernement aura un bilan positif à présenter avant l'élection.
Je suis pas persuadée que ce soit aussi, aussi cohérent comme politique d'évaluation. Parce que justement, quand on lit le rapport de la Cour des comptes, là, qui est récemment paru, enfin... au contraire, l'éducation nationale se fait taper sur les doigts par la Cour des comptes parce qu'elle ne dispose pas de système d'évaluation cohérent et homogène. Les évaluations qui se font donc de masse, qui se font à la fin des cycles eux-mêmes définis comme étant des moments clés dans les acquis.
Des paliers, oui.
Voilà, des paliers, ouais. Dans les acquis. Eh bien, voilà, on a mis longtemps avant de faire ces évaluations de masse aux paliers, de sorte que finalement les données dont dispose l'éducation nationale aujourd'hui pour piloter le système par les résultats, comme on dit, eh bien, sont assez sporadiques, sont assez et on voit qu'en fait, c'est davantage d'une volonté de produire des indicateurs de performance à tout prix. C'est à ça qu'on a affaire, en fait. C'est-à-dire, on est dans une logique de produire absolument des indicateurs de performance à tout prix. Et on n'est pas du tout au point, à mon avis, de se demander comment on va manipuler ces indicateurs de manière à montrer ceci ou cela. On en est davantage à... voilà, il faut absolument que ça remonte et qu'on puisse au moins avoir entré dans cette logique de pilotage qui n'est pas du tout dans la culture. Justement, je disais cette phrase, bon, voilà, il y en a plein, mais qui choque dans le rapport. Il disait, il faut introduire une logique de performance dans le système scolaire. Le problème, c'est que la culture éducative française n'est pas dans cette logique de performance. On n'est pas dans une culture de la performance. Il faut produire une culture de la performance. C'est de ça qu'il est question, je pense.
Auquel cas, il ne ferait pas forcément des évaluations faciles, quoi.
Il s'agit de produire des indicateurs, quoi. Quels qu'ils soient, on les produit à la va-vite si on n'a pas le temps, s'il s'agit de bricoler sur un coin de cuisine, c'est-à-dire ce que tu disais.
Exactement,
hein.
Ce que disait Darcos. Oui,
voilà.
Oui, c'est-à-dire que par moment, l'évaluation joue des jeux différents. Quand Darcos a bricolé une évaluation nationale en 5 minutes, comme ça, avec des gens qui n'étaient pas les experts, puisque les experts, c'est vrai que là, il y a des jeux de pouvoir aussi qu'il faut saisir. La direction de l'évaluation de la prospective, c'est-à-dire tous les gens qui sont chargés d'élaborer ces grandes évaluations nationales, diagnostiques ou bilans, ont été mis sur la touche. Donc il a fallu à Darcos dire, ben voilà, il faut que je trouve un outil qui conforte mes a priori sur l'école. Une politique très ponctuelle, c'était sur les 5 ans à venir. Et donc c'est vrai, là on est dans des jeux de pouvoir qui font que qu'est-ce qui influe plus, c'est produire des résultats à tout prix, ce que disaient les inspecteurs généraux. Après tout, on s'en fout. Tout le monde sait que les évaluations, elles ont été faites n'importe comment. Chacun a bricolé dans son coin comme il pouvait. Les gens refusaient de faire passer certains items. Les items n'avaient aucun sens pour les enfants. Ça, c'était absolument pas l'objectif numéro un, c'était mesurer les acquis. Elles n'ont pas servi à ça et l'ensemble de la hiérarchie le sait aussi.
Oui, c'est même pire que ça. On peut aussi dire en passant que les évaluations CE1 de l'année dernière, donc les premières évaluations CE1, comportaient deux erreurs énormes dans l'énoncé.
Par exemple, voilà.
Il y avait des figures qui n'étaient pas finies, des figures géométriques, il y avait une figure qui n'était pas terminée.
Oui, enfin, c'est vraiment assez incroyable.
C'est du mépris, ils méprisent les élèves, ils méprisent tout le monde. Donc oui, effectivement, leur objectif n'est pas du tout... Alors, même pas du tout de faire progresser les élèves, ça, c'est vraiment pas leur problème.
C'est même pas de mesurer une réalité. Quand même, il faut le dire. Parce que c'est
si, c'est
que
se donner l'illusion de maîtriser les choses. C'est donner l'illusion. S'ils en sortent des chiffres, mais je pense qu'on est dans un discours qui est purement religieux. S'ils arrivent à traduire la réalité en chiffres, dans un tableau, eh ben, ils disent on contrôle, on maîtrise.
Oui, ou au moins entrer dans une logique de maîtrise. C'est-à-dire, effectivement, pour entrer dans une logique de maîtrise, il faut mettre derrière les concepts qui sont censés permettre cette maîtrise. Il faut mettre au moins quelque chose. Là, il n'y a rien pour l'instant derrière les concepts de la maîtrise. Donc, il s'agit de produire effectivement au moins des indicateurs, au moins des chiffres, au moins...
Oui,
pouvoir rentrer dans la logique de la maîtrise. Après, moi, ce que je vois aussi, c'est une pression internationale énorme qui est faite par, effectivement, ce système qu'on évoquait tout à l'heure, le PISA, les évaluations internationales des acquis des élèves, qui va faire pression sur le gouvernement pour que lui-même, il mette en place des évaluations qui lui permettent de progresser dans l'évaluation internationale ou tout au moins de se comparer aux autres pays, quoi.
Donc on en arrive à un autre risque qui a été évoqué un peu rapidement peut-être tout à l'heure, c'est que l'évaluation, qu'elle soit par compétence finalement ou pas, mais surtout par compétence, elle va complètement imposer la pédagogie et la façon de travailler aux enseignants. Si on veut réussir mieux une certaine évaluation, on est obligé de bachoter, en fait.
Voilà, et c'est là qu'on retrouve l'idée, enfin, ce qu'Angélique dit à propos du pilotage. C'est que si ce sont les résultats de ces évaluations, alors, peu importe que ce soit sérieux ou pas sérieux, mais si ce sont ces résultats produits qui vont déterminer les moyens attribués aux écoles, les postes, ou la carrière des enseignants, effectivement, ou même l'orientation des enfants, hein, effectivement, on est dans une situation où forcément, ce sont les évaluations qui vont déterminer tout le travail qui est fait avant. C'est-à-dire les évaluations qu'on va enseigner pour que l'enfant réussisse l'évaluation.
Ben oui.
Et sauf que quand on est dans une situation où en plus les évaluations elles-mêmes sont délirantes, ce qu'on disait, eh ben on arrive à apprendre aux enfants à remplir des cases sans réfléchir. Parce que ça ressemble, c'est un exercice type.
Comme en terminale. Le bac, enfin en maths par exemple, le bac ça a pas de sens, c'est n'importe quoi. On leur apprend à faire par cœur des exercices dont on est sûr qu'ils vont tomber.
Voilà. Bah
c'est affligeant, c'est vraiment affligeant. Et on fait pas du tout de, enfin on fait pas de mathématiques. Quoi. On apprend deux trois machins, on est sûr que ça va tomber pour arriver à avoir 10. Avec ceux qui ont des bonnes bases, qui ont un peu suivi, on arrive à faire en sorte qu'ils aient au moins 15. Et c'est vraiment n'importe quoi. J'avais pas eu de terminale depuis quelques années, là j'en ai une cette année, je suis un peu affligé.
Mais ce qui est bien dans ton exemple, et si je peux me permettre, c'est que justement tu montres que finalement tout ça, ça change pas grand chose. Parce que dans le bac, on n'est pas dans un système par compétences, on est dans le vieux système de notes.
Oui, finalement c'est pareil. Ouais.
Et que finalement, ils peuvent se donner, les dirigeants, ceux qui ont le pouvoir, peuvent se donner l'illusion de contrôler plus en développant de nombreux items qui vont dire... en développant des compétences, en disant voilà, on peut évaluer les gens, leur travail, ou l'école, ou l'hôpital, ou une entreprise, ou un service, on peut l'évaluer en détail, mais finalement tout ça, ils se donnent une illusion. Effectivement, ça a une répercussion réelle sur dans nos vies. Ça a une répercussion réelle dans ce qui est fait à l'école. Ça a une répercussion réelle dans le rapport qu'il y a dans les entreprises. Mais ça leur donne pas un contrôle. Ils se donnent l'illusion d'un contrôle plus fin. Mais moi, je pense que
c'est pas vrai. C'est vrai qu'au niveau du contrôle, en réalité, le contrôle ne dit rien de la réalité. Tout ce qu'il produit, effectivement, c'est une tentative des gens de coller au contrôle, c'est-à-dire d'être davantage normalisé, justement. Cela dit, ça c'est quelque chose que l'ancien système d'évaluation rendait également... produisait également. Mais le problème avec les compétences, c'est, je pense, l'attaque. Enfin, moi, c'est ce que j'y vois de plus, on va dire, de plus nocif. Et c'est là que j'y vois vraiment quelque chose de profond. C'est cette attaque sur les logiques organiques. Qui sont celles de l'enseignement, ou la logique organique qui est celle de l'enseignement. Ce que tu décrivais tout à l'heure à propos de la déconstruction en fait de l'apprentissage, de la capture d'une logique finalement complexe, quoi, complexe, organique, dans laquelle les éléments sont en lien les uns avec les autres, sans qu'on puisse dire lequel produit lequel et produisent le tout produisant les éléments. C'est une véritable logique organique, cette capture par un système artefactuel, en fait. Un système qui finalement rappelle tout à fait 0-1, quoi, le système système binaire de l'informatique aujourd'hui. Capture qui en fait détruit la vie, c'est-à-dire mais détruit la vie au sens de la vie de l'enseignement, c'est-à-dire la vie de la transmission. Transmettre, c'est donner vie, c'est faire en sorte que revive un savoir, une habileté, que revivent des valeurs à l'intérieur d'une situation présente et concrète. Et ça, on sait très bien, enfin, en tant qu'enseignant, on sait tous que c'est quelque chose qu'on peut pas maîtriser jusqu'au bout, quoi. C'est quelque chose qu'on doit attendre que ça revive, justement, précisément. Il y a des leviers, mais voilà, il faut attendre que ça vive, quoi. Et là, il y a une logique qui tend à écraser, justement, cette dimension organique sous des logiques complètement de machine, quoi. Et moi, c'est ça qui me fait peur là-dedans.
Oui, c'est vrai. Mais après, c'est aussi, je suis profondément convaincu que c'est toujours l'objectif de tout pouvoir de détruire la vie. C'est trop dangereux, la vie. Et après, c'est vrai ce que tu dis, c'est que effectivement, tout ce que les pouvoirs mettent en place actuellement, dont ce système par compétences, bien sûr que ça va aller dans leur sens, de toute façon. Et même, quels que soient les aspects intéressants qu'il pouvait y avoir à vouloir détruire les notes il y a 50 ans de ça, dans les mouvements pédagogiques, bien sûr que dès que toutes les bonnes idées, aussi sympathiques soient-elles, dès qu'elles sont récupérées par des pouvoirs, elles vont avoir pour objectif de détruire la vie. Là-dessus, on est d'accord. Et les compétences, elles servent à ça. Aussi bien à l'école qu'après, enfin, la force des compétences, c'est vraiment de pouvoir servir aussi bien à l'école, dans ce rapport de pouvoir assez particulier, qu'après, dans l'entreprise, dans le rapport de salariat.
Moi, si je me permets...
Vas-y,
permets-toi.
Je dirais, en fait, il ne s'agit pas de détruire la vie, puisque tu as parlé de biopouvoir de Foucault. L'idée, c'est quand même plus pernicieux. Il faut la capturer et la mettre à son service. Donc, il faut peut-être penser que la vie, c'est des formes de vie, des modes de vie, des modes d'existence, des éthos, des éthiques, des politiques aussi. De propre à tout un tas de milieux singuliers, différenciés, hétérogènes, et que un système de pouvoir cherche à trouver les moyens de déposséder les individus, les collectifs, les milieux de leurs propres capacités, donc de couper, d'introduire des coupures, des différences, de déposséder les gens de ce dont ils sont capables, en fait. La compétence, c'est ça. C'est-à-dire, la compétence, c'est retirer la propre compétence que l'on peut se donner à soi-même dans un milieu spécifique. De la manière de l'acquérir, de ce que c'est que conquérir une expérience, de construire des relations À mon avis, la compétence, c'est ça. C'est comment couper quelqu'un de toutes ses relations possibles, de toutes les relations qu'ils font vivre, pour l'introduire dans un nouveau milieu où il n'y aura plus qu'un seul type de relation, celui qui sera défini par les normes du pouvoir.
Tout à fait. C'est-à-dire la construction, justement, d'un homme sans qualité, d'un homme de la flexibilité qui est capable d'être n'importe qui, de devenir n'importe quoi, de faire n'importe quoi, de s'adapter à n'importe quelle situation, de réagir en permanence au changement pour uniquement s'adapter, et qui n'est personne, quoi. Dont toute résistance au système est forcément vécue, perçue comme négative, comme pur manque de ce qu'il faut posséder, comme pure négativité.
Et moi, c'est ce qui me heurte le plus à l'école. C'est-à-dire que finalement, on arrive à rendre les enfants systématiquement dépendants de ce qu'on attend d'eux, du jugement qui va être porté sur eux, de est-ce que j'ai bien fait ce qu'on attend de moi ? L'élève n'est plus dans des processus d'apprentissage, mais est-ce que je vais coller à ce que la situation, à ce que l'exercice, etc., me demande ? Est-ce que je vais réagir comme il faut ?
Oui, tout à fait. Moi, je me souviens que la première fois que, quand j'ai pris connaissance des compétences, ce qui m'avait choqué, c'est que, je reçois la visite d'un formateur, et je faisais un débat sur la religion avec mes élèves. Et puis, j'avais préparé le débat. Justement, mon idée, c'était comment faire en sorte que une réflexion naisse et qu'on arrive à la mener ensemble sur la réflexion sur la religion. Donc, ils avaient préparé chacun un aspect différent de la religion. Finalement, le débat prend. Là, on commence à construire des définitions, etc. Et puis, à la fin de 2 heures de séance, le formateur me prend à part et puis il me dit j'aimerais bien que vous me disiez ce qu'ont appris vos élèves.
Et formateur.
Formateur UFM.
Oui,
c'est typique.
Alors.
Ça disparaît les UFM.
Non, il faut pas dire ça. Non, on est coincé, il faut pas dire ça.
Moi, je me suis battu contre la création des UFM.
Bon, Derek, on va aller.
Bon, pardon, excuse-moi.
Et puis.
On en a déjà parlé en plus ici.
Arrête.
D'accord. Ça y est, qu'ils sont en voie de disparition.
Ouais, ils sont disparus, même.
Ça y est,
dire.
C'est fini.
Et donc il me dit j'essaye de lui refaire le parcours, enfin de lui raconter finalement ce qui s'était passé, tout en me disant quand même il est un peu idiot, il aurait pu s'en apercevoir, c'est quand même étrange.
Ouais.
Et donc là il me dit attendez, ce que vous me dites là c'est pour vous, mais pour eux ça leur a servi à quoi? C'est pour moi, toute cette réflexion était pour moi. Je comprenais pas la séparation qu'il faisait entre pour eux, pour moi, visiblement...
C'est la tradition, c'est quand on est face aux élèves, on n'est pas avec les élèves, en fait. On est en opposition à eux. Si
oui,
t'as appris quelque chose, c'est qu'eux, ils ont appris.
Visiblement, tout ce qui s'était passé au niveau de la réflexion philosophique, ça, c'était pour moi, c'était pour me faire plaisir, en fait.
Ouais.
Mais après, il fallait que je définisse à quoi ça leur avait servi. Et puis là, je bloquais, j'arrivais pas à comprendre. Je me disais, mais de quoi ils me parlent ? Donc, ils commencent à me sortir une liste. Il me dit, par exemple, tel élève dont le besoin éducatif particulier, je ne sais pas quelle est sa maladie, hein, mais visiblement, il semblerait que prendre la parole en public, ça lui manque. Ce soit une compétence qui lui manque. Ça aurait été pas mal que vous ayez pris en charge son besoin éducatif particulier, que vous l'ayez aidé à prendre la parole davantage. Tel autre élève, visiblement, alors lui, il a beaucoup participé, mais son problème, son besoin éducatif particulier semble lié davantage à la gestion des émotions, me semble-t-il, parce qu'il avait tendance à sortir un petit peu de ses gonds quand il prenait la parole. Alors peut-être que vous auriez pu l'aider à acquérir cette compétence. Vous voyez, il vous restait beaucoup de travail à faire pour leur faire acquérir des choses. Et donc là, je lui dis, mais enfin, ce que vous me dites, c'est pas de la philosophie, c'est important, certes, mais enfin, c'est pas de la philosophie, quoi. Et donc là, il me dit, c'est vrai que les professeurs de philosophie ont du mal à se rendre utiles à la réussite de leurs élèves.
Grandiose. C'est grandiose.
Et alors, bon, c'est comme ça que les compétences, c'est comme ça que j'ai rencontré les compétences. Ouais. Bonjour, les compétences.
C'est elles qui sont venues à toi, en fait.
Oui, voilà, c'est ça, sous une forme tellement caricaturale que ça, elle demandait à être étudiée, quoi. Mais en l'occurrence, ce qui m'avait choqué le plus, c'était comment ils voyaient mes élèves. Parce que je sais que celui de, qui prenait pas, qui manquait de la compétence à prendre la parole en public, après j'ai découvert que c'était dans les attitudes je sais plus quelle compétence, la compétence numéro 1 du socle, hein, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai retrouvé toute la liste. Il l'avait vraiment sorti de la liste.
Oui, il n'y a pas besoin qu'il soit malade pour avoir ce genre de, d'attitude, en fait, en plus. C'est pas.
Non. Ça, à la limite, les sont sautés, c'est, peu importe. C'est même pas le problème. Mais
c'est quand même ce qu'il a cité, visiblement. Enfin,
oui, alors là où ça posait vraiment problème, c'est que comme je travaillais avec des élèves qui avaient des problèmes, en l'occurrence psychiques, ils venaient tous de l'hôpital psychiatrique, je connaissais leur histoire. Et cet élève-là, par exemple, qui prenait pas la parole en public, il avait une histoire lourde. Il avait perdu son père, qui s'était suicidé, qui était un intellectuel brillant. Et lui, il avait été très bon en classe jusqu'à ce que son père se suicide. Puis là, il était tombé, vraiment, il est une phobie scolaire et tout. Et il parlait presque jamais. Prenait presque jamais la parole. Et en fait, moi, j'avais appris à connaître cet élève et à le respecter aussi dans son silence. C'est-à-dire que pour moi, ne pas le harceler pour qu'il prenne la parole, c'était une façon de lui dire, je sais que tu as vécu quelque chose de grave, que tu te confrontes à une crise, et je respecte ce moment de ta vie qui est important. C'est-à-dire, pour moi, en fait, le fait qu'il ne prenne pas la parole, ce n'était pas juste un manque de compétence à prendre la parole en public. Ça, c'est
un raccourci qui est violent quand même.
C'est une généralité.
C'est hyper violent. Voilà, exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on me demande, le mec, il ne le connaît pas, le formateur ne connaît pas cet élève. Tout de suite, pour lui, c'est un A. Il fait partie des handicapés. Et donc, profil, besoin éducatif particulier. A, quel besoin éducatif particulier? Voyons la liste des compétences. A, prise de parole en public.
Fichier 4.
Voilà. Donc, en fait, on a affaire à un homme sans qualité. Je retourne à ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire, vraiment, qu'il s'agit de ne plus voir, de ne plus respecter avec ce qu'il est, avec sa vie, avec. Pour moi, c'était quelque chose de très profond qu'il était en train de vivre. Je considère pas que ceci n'est qu'un manque de compétences. C'est au contraire ce qui va lui permettre justement de développer tout un tas de dimensions, de rapports à l'existence, de qualité, de compétences en un sens vraiment concret, quoi. Et c'est pas cette lecture-là en termes de manque que j'ai. Or là, ce qu'on me demande d'avoir, c'est une lecture en termes de manque et d'homme sans qualité. Il faut coller les compétences, quoi.
Oui. Puis il faut remplir les trous, quoi.
Ouais, c'est ça. Voilà. C'est un manque, quoi.
On va peut-être passer une petite musique. Greg, tu nous as préparé un truc.
Madame la misère de.
Donc, on est toujours dans la discussion sur les compétences. Je résiste quand même pas trop à l'envie de vous raconter la compétence que j'ai vue. Il y avait une conférence d'une sociologue du travail belge qui donnait des exemples de compétences. Par exemple, pour être employé administratif en Belgique, il y a un livret avec 126 compétences. C'est pas 125, hein, c'est pas 127, c'est 126 compétences. Pas une de plus, pas une de moins. Et il y en a une, c'est arriver à garder son calme. Alors, j'imagine de là l'évaluation quand ils évaluent la personne qui veut être employée de bureau dans une administration en Belgique. Je sais pas ce que fait l'examinateur pour l'énerver, mais en tout cas, il faut qu'il arrive à garder son calme et c'est fondamental pour être un bon travailleur d'administration quand on fait passer des lois iniques et des systèmes pourris, forcément ça énerve.
Et dans l'éducation nationale, c'est un peu la même chose. Là, après le mouvement des désobéisseurs, on a vu apparaître une nouvelle compétence dans le.
Au concours pour devenir enseignant.
Ah oui, au concours pour devenir enseignant. Et elle s'intitule.
Agir en
fonctionnaire de l'État de façon éthique et responsable.
Voilà. Ah voilà, exactement. Exactement.
Oui. Bien.
Mais j'ai découvert en fait que elle est. Alors je sais pas si je connais pas le début du mouvement des désobéisseurs, mais j'ai découvert que cette liste de compétences, c'est la première d'une liste de compétences, a été publiée par décret en janvier 2007, je crois, février 2007, quelque chose comme ça. En tout cas, 2007, ça fait assez longtemps qu'elle est là.
Oui, mais elle n'était pas déterminante pour la titularisation. Parce que.
Non, il se trouve que ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire une épreuve spécifique là-dessus, à l'oral.
Une épreuve d'éthique.
Ouais. Ouais, c'est ça qui a généré la prise de conscience. D'accord. Et voilà, donc effectivement, on peut se demander ce que ça veut dire que d'agir en bon fonctionnaire de l'État.
À titre d'exemple, il ne faut pas critiquer le ministre, c'est ce qui nous est arrivé. On ne remet pas en cause les ordres du chef, même s'ils sont manifestement illégaux, et autre chose comme ça. Bref.
Greg ?
À titre d'exemple, une camarade là, du STE 93, donc de la CNT 93, qui passait les concours pour être CPE, on lui a demandé lors d'un oral, alors je sais pas exactement quelle épreuve c'était, mais on lui a demandé ce qu'elle pensait du droit de grève. Alors je sais pas ce qu'ils attendaient, mais bon, c'est quand même assez étrange. Quoi.
Peut-être un rappel de la Constitution.
Peut-être.
Et je pense on pourrait aussi parler de ce qui pourrait manquer dans les compétences dans un livret. Par exemple, moi je suis extrêmement choqué, donc je suis parent d'élève aussi en plus d'être prof, et dans des écoles en zone dite ambition réussite, où il y a énormément d'élèves non francophones ou d'origine étrangère ou étrangers, et comme compétence il manque par exemple le fait de maîtriser plusieurs langues. Ou alors si, ils sont pas assez forts en français, ils sont pas assez bons en français, ils sont pas assez bons en anglais. Par contre, c'est pas du tout marqué qu'ils parlent déjà, pour certains d'entre eux, ils parlent déjà plusieurs langues. Et ça, c'est pas du tout, ça rentre pas dans le livret de compétences. Quoi. Il y a aussi, encore une fois, un choix.
C'est le problème de la compétence qui oblige à faire un tri, forcément. Donc c'est peut-être ça aussi l'idée.
Parler sonique et bambara, on s'en fout.
Voilà.
Par contre,
ça n'a pas de valeur.
Par contre, parler français anglais, c'est fondamental.
Et c'est ce qu'on disait sur la compétence comme instrument de pouvoir.
Absolument.
C'est que c'est peu importe finalement que la personne soit d'une richesse extraordinaire, ce qui va la définir, ce sont les compétences définies par l'autorité.
Oui, parce qu'effectivement, ce que permet la compétence, c'est de mesurer une performance. Mais à la fois, mesurer une performance, ça implique de traduire cette performance en comportement observable. D'où, effectivement, la détermination des fameux indicateurs de performance qui peuvent entraîner des situations complètement absurdes dans lesquelles on mesure... les acteurs eux-mêmes se rendent compte que ce qu'on mesure comme étant le critère de possession de la performance, c'est exactement le contraire de la réalité, quoi.
Oui, et donc un système... qui exclut.
La seule vraie compétence qui existe et qui existera toujours, c'est de plaire au chef. Tout le reste n'a aucune importance.
Ça, c'est pas très dur, en fait. Il y a des techniques.
Ça s'apprend.
À l'école, ouais. C'est très. D'ailleurs, c'est le côté affectif qu'il peut y avoir dans la relation avec l'enseignant. C'est une bonne entrée en matière pour plaire au chef.
Mais là où je pense que tu te trompes, c'est que c'est une logique fractale. C'est-à-dire que c'est une logique qui s'applique aussi au chef. C'est une logique qui s'applique à tous les niveaux. Et c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que nous, on l'a vu s'appliquer d'abord aux élèves, maintenant elle est en train de s'appliquer à nous, et puis elle s'applique à tous les niveaux de la hiérarchie.
Elle s'applique même au ministre,
mais absolument. Et je pense qu'il faut comprendre ça pour comprendre aussi qu'on est dans une machine. On n'est pas dans un système dans lequel on pourrait dire « Ah, l'ennemi est là, descendons-le ». Parce que c'est ça le problème aussi. C'est que, à mon avis, c'est le problème, peut-être qu'on pourrait parler un petit peu aussi de la difficulté de résister à cette logique. C'est que
On n'a pas affaire
à une logique dans laquelle, justement, l'ennemi puisse être identifié bien clairement et on puisse se dire « Bon, ben, on est contre, on sait ce que ça veut dire ». En réalité, on est contre et on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. C'est un vrai problème. On a affaire à quelque chose qui s'introduit de manière diffuse dans nos pratiques, qui nous divise, on voit bien les compétences, d'ailleurs, ça ne fait pas du tout l'unanimité. Hein, certains sont pour, certains sont contre. Les compétences
aussi,
ont été elles-mêmes pratiquées par des pédagogues qui sont dans la mouvance des pédagogies actives, progressistes, etc. Donc, on est dans quelque chose de très flou, quoi.
Et donc, justement, parlons-en, la résistance, aujourd'hui, Didier.
Justement, sur le sujet, on brille par son absence, moi, je trouve. C'est ça, le problème. C'est que
On a eu une résistance aux évaluations qui était ultra minoritaire pour les évaluations nationales CE1 et CM2, avec des mots d'ordre qui étaient
confus, contradictoires et pas suivis dans les faits. Oui. Il y a eu des appels au boycott. La CNT et Sud appelaient à la grève, c'est-à-dire à ne pas les faire du tout, à ne pas y participer. Et au bout du compte, il y a, disons que c'est resté une action symbolique. C'était plus l'idée, pour les quelques dizaines de personnes qui ont fait grève en France, de dire, ben voilà, on refuse toujours, on n'a pas d'alternative à proposer aux collègues, si ce n'est de leur expliquer que, ben, pourquoi on est contre, mais qu'on ne peut pas créer de mouvement de grande ampleur sur cette question. Ça, c'est vrai, sur les livrets d'évaluation, sur...
Et le travail du collectif anti-hiérarchie commun avec Émancipation là-dessus, il y a eu un travail commun à Nantes lors d'un stage avec donc la tendance Émancipation de la FSU. En quoi, en fait, ce travail n'aboutit pas encore sur des luttes?
Alors, si tu cites Émancipation, contractuellement, nous sommes obligés de citer la Sud et la CNT qui sont nos partenaires et que nous remercions. À part ça. Non, sur, alors c'est vrai que...
Parce que tu les avais déjà cités.
Oui, mais... Non, c'est vrai que la difficulté qu'on a à travers ces évaluations nationales, c'est que finalement, elles ne sont qu'un bout important, mais un bout d'une réforme générale de l'école, disons.
Disons depuis 2005.
Oui. Et qui, oui, ou même avant, si on considère que l'approche par compétences fait partie de cette réforme, alors, mais bon, ça dépasse l'école à ce moment-là, ça remonte un peu avant, hein, c'est la gauche, hein, qui a imposé tout
absolument,
ça.
Absolument, c'est avec la loi de 89.
Oui. Ouais. Et donc, ce qui est difficile, c'est qu'on se retrouve confronté à différentes réformes. Et montrer la cohérence de ces projets, montrer que les évaluations nationales ne sont pas seulement nulles et stupides, mais qu'elles sont franchement néfastes, mais ça c'est difficile. Et c'est ça qu'on essaye de faire au collectif anti-hiérarchie et avec tout de même des syndicats... Mais c'est bon, et après c'est vrai que depuis quelques années... Les syndicats majoritaires sont quand même très modérés sur toutes ces questions.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Mais bon, ça tient aussi à la complexité de ce qui est en jeu.
C'est le cas parce que je pense au SNES, par exemple, qui appelle à ne pas remplir les livrets d'évaluation au collège. Mais à la fois, il trouve que le PISA, l'évaluation internationale des acquis par compétences, ça c'est bien. Et en même temps, il trouve aussi que les livrets de compétences dans l'école primaire, ça c'est bien. Donc en fait, il n'y a pas de cohérence. C'est-à-dire, c'est un peu du bricolage parce que bon, on s'aperçoit que là, c'est trop avec ces livrets de compétences qu'il faut remplir au collège, qui n'ont absolument rien à voir avec l'évaluation qui, par une longue culture de l'évaluation, est mise en place, qui va venir concurrencer une autre forme d'évaluation pour lesquelles on balance des livrets complètement formatés sur les profs, qui vont sans doute être remplis par les chefs d'établissement si jamais les profs ne les remplissent pas. Enfin, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose contre quoi il faut résister. Mais à la fois, comme tu le disais tout à l'heure, c'est lié à l'ensemble. Et pourquoi faire une coupure là plutôt qu'ailleurs? Ça pose un vrai problème de cohérence, je pense que.
Et il y a une opposition primaire-secondaire qui a été notée, je pense, dans toutes les tentatives de réaction, par exemple, aux évaluations par compétences, où on sent quand même dans le secondaire une plus grande inertie à garder ses anciennes méthodes, peut-être. Et puis à vouloir sauvegarder l'enseignement fractionné par discipline, à vouloir sauvegarder les diplômes, les examens type bac, etc. Ce qui n'a pas du tout lieu d'être a priori dans le primaire, vu que les enseignants sont polyvalents et qu'il n'y a pas d'examen final. Donc il y a déjà une différence d'approche de par la formation des enseignants, la culture enseignante du primaire et du secondaire.
Second degré.
Et c'est vrai que c'est difficile de dépasser tout ça. Et c'est vrai aussi que pour ce qui pour ce qui pour nous instituteurs peut paraître très réactionnaire de la part des professeurs du secondaire, qui est de cet attachement aux notes et à la
et au savoir, aux logiques disciplinaires.
Oui, tout à fait. C'est en même temps, on peut aussi comprendre que pour eux, puisque la finalité reste un diplôme, c'est aussi une façon de s'opposer à cet émiettement, à cette individualisation plus tard dans le monde du travail. Le diplôme reste quand même quelque chose de collectif, qui est, comment dire, quelqu'un face à son patron, et j'y reviens toujours, qui va être défini par ses compétences. Le patron va lui dire, voilà votre liste de compétences et vous n'avez pas telle ou telle compétence. Ça, c'est le salarié se retrouve tout seul.
Il est tout seul, c'est le patron qui décide et c'est remis en cause tous les ans.
Voilà. Et c'est vrai que le diplôme,
alors qu'un diplôme
était censé
stable, sûr,
apporter un rapport de force au salarié là-dedans.
C'est sûr, oui.
Le salarié était embauché sur tel diplôme ou tel certificat et à tel poste. Et ça définissait une grille de salaire, ça définissait un avancement dans la carrière, ça définissait plein de choses. C'est vrai que les compétences permettent de remettre tout ça en cause. Oui, donc on peut comprendre, d'un point de vue pédagogique, cet attachement à la note et au diplôme, c'est quand même c'est pas très intéressant. D'un point de vue de plus tard dans le monde du travail et d'évolution du monde du travail, on peut comprendre ça.
Ouais, donc, cela dit, enfin, je te rassure tout de suite, parce que j'y suis du secondaire, c'est pas pour ces raisons-là que les enseignants s'opposent à l'approche par compétences. C'est-à-dire, malheureusement, ça va pas si loin, quoi. S'ils s'opposent, moi je crois que c'est lié à un problème à la fois plus grave, quoi, qui est que quand on s'oppose, pour s'opposer, il faut avoir une alternative, au moins une perspective alternative, depuis laquelle l'opposition est possible et se justifie. Cette perspective alternative, à partir du moment où elle n'a pas été construite, c'est celle du passé. C'est-à-dire que finalement on s'oppose au nom de ce qui est. Et à partir du moment où on n'a pas construit autre chose, on ne peut pas s'opposer au nom de d'autres choses vu que ça n'existe pas. Et le problème, il est là. Il est que, à la fois, pourquoi est-ce qu'on défend les savoirs contre les compétences ? Parce que on n'a rien construit d'autre face à une logique qui... Alors, c'est pas directement les savoirs qui sont en cause dans cette logique disciplinaire, mais une logique, disons, qui place certains savoirs en haut, qui place la théorie... En amont sur la pratique, qui valorise la théorie aux dépens de la pratique, qui va définir aussi une structure hiérarchique dans laquelle le prof parle depuis son estrade et ne met pas effectivement les élèves en activité, etc., etc. Mais sauf que si on construit rien d'autre face aux limites de ce système-là, quand on voit arriver les compétences, on n'a rien à défendre d'autre que ce qui est, quoi.
Donc, pour conclure, on a abordé les compétences un peu sous tous les aspects qui nous sont venus à l'esprit. Je rappelle quand même le livre d'Angélique, donc c'est Angélique Del Rey, D-E-L, plus loin R-E-Y, L'école des compétences, de l'éducation à la fabrique de l'élève performant, aux éditions La Découverte. Le livre qui démarre sur le constat que tu avais fait. D'une expérience, comment la compétence est venue à toi.
C'est un peu ça, ouais.
Et donc, qui t'a donné envie de travailler dessus. La compétence, elle est venue peut-être dans le premier degré assez rapidement à vous aussi, en particulier via les livrets d'évaluation, mais même avant ça. Donc, on en entendait déjà parler depuis, j'allais dire 20 ans, mais oui. Peut-être même un peu plus longtemps, avec les approches par compétences, des mouvements pédagogiques, etc.
Depuis 20 ans,
depuis 20 ans dans
très,
les textes.
Très officiellement, on est censé construire la totalité des activités et des cours en fonction des compétences visées.
Et donc, on voit bien la logique qu'il peut y avoir derrière. Donc, la compétence, c'est une employabilité, c'est du vocabulaire managérial qui est rentré... de manière très claire, en fait, c'est même pas caché maintenant. Il y a pas d'objectif caché. Hein. Clairement, on a besoin que l'élève soit un futur employé modèle, qu'il soit flexible, qu'il sache obéir. Et finalement, c'est ces compétences-là que l'école avait déjà probablement acquis depuis longtemps. Maintenant, ça devient son objectif, quoi. L'objectif de l'élève modèle, je crois qu'il a pas d'âge. dans l'enseignement. L'objectif de l'élève modèle au travail, c'est maintenant écrit clairement qu'on doit former un travailleur efficace. Vous m'arrêtez si je me trompe.
Ouais, je pense que ça a toujours existé en fait. Oui. C'est rendre les travailleurs dociles et utiles. C'était déjà le.
C'est l'objectif de l'école de Jules Ferry.
Absolument. Oui, oui.
Le travail a changé.
Non. Oui, voilà, absolument. Ce qui a changé, c'est la nature de la gestion, effectivement, de l'apprentissage, qui elle-même a changé parce que la nature du travail a changé, qu'on dit qu'on est entré dans la société de la connaissance, qu'il faut gérer du capital cognitif et que du coup les écoles sont mises au pas de ce genre de choses, quoi. Mmh.
Et donc, au niveau des résistances, on ne voit pas grand-chose poindre à l'horizon. Donc, si ce n'est peut-être une réflexion engagée depuis quelques mois entre les syndicats Sud, CNT et la tendance émancipation de la FSU, avec le collectif anti-hiérarchie en grand organisateur habitué à faire des stages partout en France.
Non, et heureusement qu'il existe aussi d'autres points de résistance en France et ailleurs. Mais c'est vrai que pour l'instant, les résistances restent soit liées à des initiatives assez spectaculaires, comme ont pu faire les désobéisseurs, de rendre public un refus de participer à ce qui se fait actuellement à l'école, ce qui leur a valu des problèmes et de la répression, soit de façon de. Nous, on essaye de porter une critique et de réfléchir à ce qui se passe. Après, il est vrai qu'on a dû que, pour l'instant, il n'y a pas de mouvement collectif fort de résistance à toutes les transformations qui apparaît. Mais
c'est parce qu'il y a une réflexion à mener véritablement sur l'alternative, c'est-à-dire sur une autre façon d'enseigner qui n'est pas du tout menée, enfin qui est vraiment c'est un chantier quoi. Je pense que là il y a quelque chose de un travail important à faire qui n'est pas fait dans l'école et c'est pour ça que ça avance.
Et la transition là, je sens la transition pour justement cette réflexion. Je vous conseille une revue. Bien joué. Hein. Et donc la revue Notre École, qui est la revue de la Fédération des Travailleurs de l'Éducation, de la CNT. La revue Notre École, c'est une revue trimestrielle qui justement essaye de s'ouvrir à tous les débats autour de l'école, sans préjugés, sans dogme préétabli, hein, avec des gens qui écrivent dedans, qui sont des contributeurs qui n'appartiennent pas forcément à la CNT. D'ailleurs, tous ces débats à la CNT sont très loin d'être clos. C'est donc une revue ouverte qui fait apparaître les différents points de réflexion de certains camarades.
On pourrait même dire qu'elle est ouverte ou bleue en ce moment.
Alors là, bravo le jeu de mots. En effet, le numéro 25 sur l'évaluation est vert et le numéro 26 qui vient de sortir sur la démocratie est bleu. Bravo. tu m'as un peu coupé la chic là, je sais même plus quoi dire tellement c'était beau.
Et donc voilà, et il va parler de la démocratie, ce numéro, enfin il parle voilà. De la démocratie sous plusieurs angles, on va dire. La démocratie dans les classes, la démocratie dans les luttes, la démocratie en tant que, est-ce qu'on a affaire à une école démocratique ou non, est-ce qu'on veut en créer une, si oui, comment, etc. Tout genre de questions qui se posent.
Donc avec des contributions qui viennent un peu de tous les horizons, des contributions de camarades de mouvements pédagogiques, de camarades de syndiqués, de camarades non syndiqués, et donc vous pouvez vous procurer assez facilement cette revue en allant sur le site de la revue notre école, alors NAUTRE, c'est un jeu de mots, hein, notre NAUTRE point non pas point pardon notre NAUTRE, école, E-C-O-L-E, comme école, point je sais pas quoi, enfin dans le moteur de recherche, ça y va direct, et vous avez un lien de toute façon sur le site de la revue, en allant sur le site de la CNT-FTE, Fédération des Travailleurs de l'Éducation, et vous aurez un lien pour aller sur le site de la revue directement, et depuis peu de temps, depuis à peine quelques mois maintenant, vous pouvez même commander la revue en ligne, vous pouvez en commander une version numérique, ou commander la version papier qu'on vous enverra le plus rapidement possible. C'est en ce moment même assez rapide, hein, ça se fait en moins d'un mois, donc vous pouvez commander, et évidemment, ça n'a pas toujours été le cas, ça le fait marrer. Et très important aussi. Vous pouvez vous abonner parce qu'on a besoin d'abonnés pour pouvoir continuer à fonctionner. C'est une revue qui nous coûte cher et on est un syndicat sans subvention qui ne fonctionne qu'avec les cotisations de ses adhérents. Donc les abonnements sont bien plus importants pour nous que les commandes isolées. Mais évidemment, vous pouvez en commander un pour vous faire une idée. Et puis, je ne doute pas de votre abonnement prochain à la suite d'une première lecture. J'ai donné aussi les références du livre d'Angélique, qui est très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres lectures sur le sujet à conseiller à nos auditrices, nos auditeurs ?
Oh, il y a pas mal de choses à lire. Puisque tu l'as cité tout à l'heure, Pascal, tu as fait référence à une sociologue du travail belge oui. qui raconte des choses très intéressantes. Alors, Marcel Strauban est une sociologue à l'Université libre de Bruxelles. Elle a publié un ouvrage dans les années 90 sur justement le problème de la fabrication des aptitudes, sur une réflexion pourquoi cette émergence de cette catégorie d'axes pratiques de compétences. Et c'est une réflexion très intéressante, assez proche d'une autre belge que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Isabelle Stengers, et qui a le même genre d'approche, comment dire, non théorique. C'était très expérimental, très pragmatique. Il y a sur Internet, on peut consulter sur Dailymotion, il y a une vidéo sur la flexibilité du travail et une autre sur les compétences qu'elle a données à l'école de recherche graphique de Bruxelles et qui est disponible sur le site de cette école. Voilà.
Sinon, on reste dans les Belges, il y a Nico Hirt. Qui est donc un professeur de mathématiques belge qui travaille sur les compétences depuis une dizaine d'années et qui travaille davantage l'aspect mondialisé des compétences et comment elles se sont introduites dans les politiques européennes. Et puis il y a une sociologue française, cette fois-ci en France, qui s'appelle Lucie Tanguy, qui a écrit un livre sur les compétences dans les années 90, 95, je crois, sur savoir et compétences dans l'éducation et dans le monde du travail, quelque chose comme ça. Et qui a écrit un autre livre après, qui s'appelle Former pour réformer, où elle montre en fait comment la formation continue a fait que c'est introduit progressivement justement cette notion de compétence de l'entreprise vers l'éducation à travers la formation professionnelle, donc le lycée professionnel et le lycée technologique.
Et donc sûrement le truc intéressant en comparant avec les travaux des sociologues du travail, de voir le lien très clair qu'il y a entre l'approche par compétence dans l'éducation nationale et l'approche par compétence qui est déjà en œuvre dans les entreprises privées depuis quelques décennies déjà, enfin au moins deux décennies. Vous pouvez aussi prendre tous les renseignements sur le site de la Fédération des travailleurs de l'éducation pour les luttes en cours si vous êtes travailleur de l'éducation, pour vous syndiquer ou pour tout simplement prendre contact avec la fédération. Donc sur le site CNTFTE dans n'importe quel moteur de recherche et vous aurez le contact de la fédération, du secrétariat, le contact par syndicat pour vous rapprocher du syndicat le plus proche de votre département. Pour le collectif anti-hiérarchie, il y a un site aussi qui a pour adresse abaleschefs.org. Donc abaleschefs tout collé. .org et dans lequel vous aurez le contact aussi mail, parce que je crois pas qu'il y ait de contact téléphonique. Non. Il y a un contact internet par mail du collectif anti-hiérarchie avec un stage qui s'organisera probablement au mois de novembre ou décembre, donc actualité à suivre, c'est pas encore organisé, donc mais ça sera probablement un stage très intéressant où la notion de compétence sera évidemment abordée
au centre des débats
en large en travers, et ce sera vraiment la question centrale vu que c'est visiblement le point à approfondir aujourd'hui avec nos camarades et nos collègues. Je crois qu'on a fait le tour. Greg ?
Ouais, peut-être deux petites annonces. Vous annoncez que donc comme vous le savez peut-être déjà, il y a les cours de la Dioniversité. Alors ce qu'il y a de spécial, donc c'est en fait c'est l'Université populaire de Saint-Denis. Et pour le mois de juin, il y a un seul cycle. C'est un cycle autour de la musique dite baroque. Donc voilà. Là, la prochaine conférence est lundi 14 juin, et ça sera une invitation à l'écoute active de la musique française du grand siècle, avec notamment en fait une approche de tout ce qui est ornementation, les agréments, c'est-à-dire tous les trilles, enfin ce genre de choses. Et apparemment, ça a l'air d'être assez intéressant, parce que il va vraiment faire écouter de façon active tous les participants. Donc voilà. Et aussi, on peut vous annoncer que samedi 19 juin, à la librairie Publico, vous savez, là où vous pouvez acheter notre école et acheter la carte de Radio Libertaire.
Et le livre d'Angélique.
Et le livre d'Angélique, voilà. Et ben, il y a samedi 19 juin des contes libertaires pour petits et grands. Et le thème sera contes à l'envers. Donc c'est à 16h à la librairie Publico, je rappelle l'adresse, 145 rue Amelot à Paris, donc métro République ou Oberkampf.
Voilà, et puis une autre annonce que j'ai failli oublier, mais ça aurait été quand même dommage. Vous savez tous que vendredi va commencer une horreur médiatique et publicitaire dans le monde entier, qui s'appelle la Coupe du Monde de football. Et pour fêter cet événement, il y a un apéro anti-foot à la librairie Quilombo au 23 rue Voltaire. C'est ça ? 21 Terre rue Voltaire. Donc dans le 11e, au métro rue des Boulets. Ça doit être le plus proche, ou Alexandre Dumas aussi, qui doit pas être bien loin. Voilà, donc pour tous ceux qui sont dégoûtés par ce spectacle affligeant, et bah vous pouvez vous retrouver là-bas et profiter de cet événement pour se retrouver entre gens qui au moins trouveront ce spectacle affligeant, et ça fait du bien de se retrouver ensemble. On n'est pas si nombreux que ça, j'ai l'impression, aujourd'hui. Par ailleurs, il y a des mouvements qui essayent de s'opposer à ce genre de grandes compétitions internationales, nationalistes. Et donc, nous vous invitons à vous renseigner un peu là-dessus et essayer de rejoindre. En particulier, vous rencontrerez beaucoup de ces personnes-là à l'apéro anti-foot, je pense, vendredi soir, à la librairie Quilombo, 21 Terre rue Voltaire. On a fini le temps de l'émission, mais le remplaçant n'est pas là, vu que nous attendons Squall de Sa Bouse sous les pavés.
Donc ce que je vous propose, si vous le voulez bien, juste avant d'écouter à nouveau le générique réalisé par la compagnie Luba, c'est d'écouter une musique d'un album qui vient de sortir, d'un groupe de dub mythique, on va dire, dans le dub, qui s'appelle Hightone, qui viennent de Lyon. C'est totalement autoproduit, hein, bien sûr. Voilà, on peut trouver ça sur leur site, on peut leur acheter directement. Et donc leur nouvel album s'appelle Outback, et on va écouter la première musique, qui s'appelle Spunk.
Eh ben, merci beaucoup, merci à toutes et à tous, merci Renaud, merci Angélique, merci Didier,
merci.
Et merci Greg. Donc on se retrouve pas le mois prochain, vu que c'est les vacances, et on se retrouve à la rentrée. Oui, c'est les vacances, c'est... moi je suis en lycée, les vacances c'est vendredi. Donc, il y a le bac après. Donc, bonnes vacances à ceux qui en ont. Bon courage. Et n'oubliez pas, vous pouvez appeler au studio au 01 43 61.